Le masque et la plume, c'est tous les dimanches soirs sur France Inter à partir de 20h. Masque et la plume. Bonsoir à toutes et à tous, bienvenue en public au théâtre de l'Alliance française pour un masque et la plume consacré ce soir à l'actualité du cinéma avec Charlotte Lipinska de Vogue et les Rambeaux de la critique. J'ai nommé Michel Simon, Michael Simon de Positif, Eric Neuhoff du Figaro, Nicolas Chalère de L'Obs. Michel Simon, d'ailleurs, je le signale, qui publie chez Marest la version définitive de son livre Référence, paru il y a 35 ans, sur John Boorman, le cinéaste d'Excalibur. Boorman, un visionnaire en son temps. Et on parle ce soir pas simplement de Rambo, mais également de Bacurao, Downton Abbey, Rambo, donc Last Blood, je l'ai dit, Le Dindon, Trois jours et une vie, Ceux qui travaillent et Au nom de la terre. Alors, beaucoup de courriers cette semaine à propos de Woody Allen, de Céline Sciamma, la copine d'Eric Neuhoff, Desplechin ou Cédric Kahn, et ça j'en lirai la fois prochaine, mais ce n'est rien comparé à l'avalanche de messages que m'a valu l'enthousiasme des critiques. Tu étais d'ailleurs, Eric, du Masque et la Plume pour Ad Astra de James Gray. Petit florilège, Jean-Louis Scholtus rebaptise Ad Astra, Ad Fatra. Ce film est une magnifique exaltation de l'ennui et de l'à peu près. Fanny Fanette se demande comment le masque a pu à ce point encenser ce film. Une suite de clichés téléguidés, un scénario simplé. Vous êtes même tombé dans le piège de cet Oedipe grossier. Antoine Bertrandi, cher casque, cher enclume, la symbolique et d'une lourdeur incroyable, scénario très plat. L'unanimité avec laquelle tu as, cher masque, encensé ce très long métrage m'a fait penser à la phrase prononcée par le quasi-regretté François Bayrou devant le congrès fondateur de l'UMP. Si nous pensons tous la même chose, c'est que nous ne pensons rien. Quelle déception, quelle platitude, dit Geneviève Teille. Pour Philippe Couteillas, Ad Astra est désastreux. On s'en fout des problèmes familiaux du héros. Brad Pitt est parfaitement plat, sans odeur ni saveur, continuellement bougon. Thomas Aranias a eu l'impression désagréable d'assister à un cours de psychanalyse pour débutants sur le syndrome d'Oedipe. Le docteur Zardoz, qui habite Beaupro en Mauges, trouve le film encombré de bons sentiments à l'américaine. Les scènes de sortie extraterrestres sont décevantes comparées à 2001. Et les personnages sont dépourvus d'émotion. Benoît Pulluen demande ce qui est arrivé à James Gray pour réaliser un tel navet. Certes, c'est beau, mais jamais le propos n'arrive à la cheville de 2001. Ce film est un objet froid porté par un Brad Pitt aussi neurasthénique qu'un Welbeck sous Valium. Cela dit, Welbeck sous Valium, ça sent un peu le pléonasme. Hein. Pierre Selma reconnaît à Ad Astra des images époustouflantes, mais au service d'une philosophie de cendrier, amplifiée par une voix off pontifiante. Un soupçon de science aurait aidé ce pinsum galactique à sortir de sa mièvrerie abyssale. Pierre et Michel Pinault tiennent Ad Astra pour un navet, mais qu'est-ce qu'il y avait donc dans les pop-corn des critiques du Masque et la Plume? Pour Hubert Guillot, nous traversons l'univers pour revenir au point de départ sans que rien ne soit vraiment arrivé à quiconque, hormis à nous spectateurs qui avons fait l'expérience de traverser le vide. Franck de Chatou regrette que même Eric Neuhoff n'ait pas sauvé l'honneur du Masque et la Plume. Vide sidérant que cette cosmique quête du père sur fond de problèmes de couple dont les dénouements nous font regretter la pesanteur. Enfin, car je peux pas tout citer, je vous promets que c'est vrai, Pierre Cusor juge que ce film est plus barbant, il a failli écrire chiant, qu'un voyage dans l'espace où l'on ne boit pas, l'on ne mange pas, l'on ne baisse pas, bref, c'est un enfer. Eric, t'étais là, tu maintiens, toi ?
Non, tu n'as reçu aucun foyer favorable.
Non, non.
Ah bah, Jérôme, je tombe des nues, c'est le cas de le dire.
Michel.
À la décharge de mes camarades du Masque et la Plume,
ouais.
C'est toute la presse qui a porté au nu ce film. C'est pas seulement quatre personnes du Masque et la Plume, c'est toute la presse. Là, il y a un fossé entre...
Tu l'avais aimé, toi, ou pas, Michel ?
Moi, j'ai aimé le film, bien sûr, mais c'est un décalage énorme.
Ce qui est d'autant plus terrible, c'est que c'est le plus gros succès de James Gray pour l'instant en salle, c'est qui a fait le plus d'entrées. Donc, sachant le parcours très chaotique de James Gray auprès de la critique et du public, ce type est vraiment maudit.
Et puis ça continue, c'est-à-dire que je pensais que ça serait évidemment pour Woody Allen. Non, c'est pas le cas. C'est pour Ad Astra. Voilà ce qu'il en reste en tout cas. Prix du jury à Cannes, ex aequo avec Les Misérables de Lajli, Bacurao du Brésilien Kleber Mendoza Fio, à qui on doit Aquarius et Les Bruits de Récifs. C'est un film de 2h10, co-signé de son décorateur Juliano Dornel, avec notamment Sonia Braga et Barbara Collen, qui jouaient déjà d'ailleurs dans Aquarius, je ne sais pas si vous vous souvenez d'elle, avec aussi l'Allemand Udo Kier. Ce film se déroule dans un avenir proche. Je lis partout que c'est un film d'anticipation, mais c'est quand même très proche. Et puis, de toutes les manières, Monsieur Bolsonaro nous permet de penser que ce n'est pas si éloigné que ça. Donc, il se déroule dans un avenir proche et dans un village heureux, tranquille, plutôt new wave, de la région aride du Sertão. Ses habitants découvrent, peu après la mort d'une matriarche de 94 ans, Carmelita, que Bacurao a tout simplement été rayé de la carte du Brésil et des GPS. Depuis qu'un barrage a été construit dans la vallée, le village n'est plus alimenté en eau, un drone en forme de soucoupe volante le survole, et puis surtout les paramilitaires américains menés par Udo Kier annoncent le pire. Alors je vous dis pas comment le village va résister, mais il va résister à tel point que je ne suis pas sûr, j'en parlais, que ce président Bolsonaro apprécie tout à fait ce film Charlotte.
C'est un film assez dingue en fait, inclassable dans sa forme, parce que effectivement il relève du film d'auteur avec un sous-texte politique extrêmement fort, mais il y a aussi du western italien, il y a du John Carpenter, enfin on est sans arrêt un peu dérouté je trouve par la forme du film, et je dis Carpenter, il y a même des morceaux de musique de Carpenter utilisés dans le film, avec un récit qui est quand même assez sec, assez elliptique, c'est-à-dire que pourquoi on raye ce village de la carte, on ne le sait pas finalement. Finalement, on comprend des intérêts économiques et tout ça, mais rien ne sera véritablement explicité. Donc, il faut rentrer dans les creux du récit pour assister à un film qui, moi, m'a constamment dérouté dans le bon sens du terme. C'est-à-dire que chaque séquence est totalement imprévisible. Ça prend des virages à 180 degrés complètement dingues. Et avec en plus une patte extrêmement 70s. Parce que le film est tourné en Panavision avec des objectifs anamorphiques. Donc qui transforment un petit peu l'image. Donc il y a une patte comme ça assez vintage. Même si on nous dit que le film se passe dans quelques années. Donc on n'a aucun repère temporel. Et puis c'est un film qui est un appel à la révolte, qui célèbre la force du collectif, avec tout de même, je ne révèle rien de la fin, un message qui me laisse quand même un peu perplexe, à savoir qu'il n'y a pas d'autre réponse à la violence que la violence. C'est-à-dire, la fin du film est quand même extrêmement violente, on s'approche presque des slasher movies, pour être un petit peu accroché quand même, et c'est la seule réponse qu'il trouve. Après, il est impossible d'enlever le film du contexte politique du Brésil actuel et de Bolsonaro. Donc, effectivement, c'est un film de résistance extrêmement militant et que je trouve extrêmement fort.
C'est comme ça qu'il a été reçu d'ailleurs à Cannes. Michel.
Oui, moi, j'étais très déçu par le film. C'est-à-dire, contrairement à la totalité de la presse, puisque c'est un film qui est...
Y compris étrangère à Cannes, hein, qui
était présenté comme un chef-d'œuvre. Oui, c'est présenté comme un chef-d'œuvre. Et j'avais vraiment beaucoup apprécié Les Bruits de Récif et Aquarius. Et là, je pense qu'il a voulu entreprendre quelque chose qui dépasse son talent. À la fois cette fable dystopique, ce western, ce film de science-fiction, des soucoupes volantes, etc.
Et ce film politique.
Moi, je ne le porte pas au crédit du film. Je pense qu'il n'a pas su maîtriser tous ses registres. C'est une série de registres complètement opposés. Et pour moi, c'est un film vraiment qui échoue dans son entreprise. D'autre part, il faut dire aussi qu'il a été réalisé avant Bolsonaro. ça change un petit peu toute la perspective, oui. Parce que dans ce film, il y a d'abord une heure...
Quand il est arrivé à Cannes, c'était porté par les succès et l'élection.
Il a été tourné à une époque où on parlait de la candidature, mais on ne parlait pas du succès de Bolsonaro, qui a surpris un peu beaucoup de gens. Mais cette vision utopique qui nous montre de ce village où il y a une concorde générale, où tout le monde est bien avec tout le monde, que le bandit déjeune avec le maire, tout le monde se passe très bien. Et puis arrivent les monstrueux étrangers, alors qu'on sait que finalement, le Brésil a été victime du Brésil, parce que Bolsonaro, ce n'est pas Trump. Bah, il est soutenu par Trump.
Mais la plus ambiguë que Trump, hein.
Bien sûr. Mais
c'est plus ambiguë que ça. Il y a un préfet
qui est un horrible personnage. Mais ce que je veux dire, c'est que cette façon de reporter sur l'étranger les maux du Brésil, les Brésiliens ont eu ce qu'ils ont voulu. Il a été élu par le peuple brésilien. C'est une horreur absolue, et Trump aussi d'ailleurs. Mais ce que je veux dire, c'est que le film me paraît assez manichéen et assez fourre-tout. C'est ça que je reproche surtout. Évidemment, c'est un film très ambitieux. Il faut le voir, c'est intéressant. Mais quand on pense aux grands films brésiliens des années 60, Le Dieu noir et le diable blond, Les fusils, Antonio dos Mortes, qui étaient des films prodigieux, il y a une nostalgie pour moi de ce grand cinéma.
Eric.
C'est une vraie ragunia, ça. Et ça n'est pas un mot de portugais. Hein. C'est... Michel a raison, c'est un fourre-tout. Il y a à boire et à manger, tout et n'importe quoi. Il ne sait pas choisir. Il y a un gros problème narratif dans ce film. Ça part dans tous les sens.
Mais pas du tout.
Ah si, sans arrêt.
Il y a deux actes très clairs et c'est très progressif.
Enfin, non, c'est déjà l'histoire de l'immeuble à l'Aquarius qui était horripilant avec la Jeanne Moreau brésilienne.
C'était formidable.
Mais là, on sent qu'il a commis l'erreur de croire les critiques qui lui avaient dit qu'il était génial. Alors il s'est cru tout permis. Et le résultat est consternant, là. À un moment donné, il y a une soucoupe volante qui vient de chez Ed Wood. Il y a Udo Kier qui est rescapé des films d'Andy Warhol et de Morrissey, là, qui est devenu une espèce de crapaud alcoolique en treillis. Et il est formidable, lui, d'ailleurs. Et c'est tout un tas de références à la Monsieur Cinéma. Et puis, alors, le message politique, merci. Le vilain politicien, les méchants américains, les mercenaires qui tuent tout le monde. Non, mais c'est un film très, très faible et qui rate toutes les marches. C'est comme si c'était mis en haut d'un escalier avec des bobines de film qu'il les avait jetées et ramassées marche par marche et mis ça sur l'écran. Et comme village qui résiste, je préfère celui d'Astérix, c'est beaucoup plus marrant et intelligent.
Nicolas.
Bah, c'est le meilleur film qu'on a cette semaine. Je suis d'accord, parce qu'Aquarius était beaucoup plus fort, était une fraise beaucoup plus réussie et aboutie, mais je trouve que c'est un des cinéastes les plus passionnants du moment. Et dans ce film, il ose quelque chose. C'est-à-dire que le film, la première moitié du film, effectivement, commence sur une tonalité qu'on lui connaît, c'est-à-dire une fresque, la description d'une vie en communauté avec des,
plein très, de... Très social.
Très social, avec, en même temps, toujours un rapport à la nature, un rapport au patrimoine, à la culture et au passé qui est très important chez lui, et c'est assez très beau. Et puis d'un coup, à la moitié du film, on bascule dans une série B assumée. C'est les chasses du comte Zaroff, mais aujourd'hui dans le pays de Bolsonaro. Et d'ailleurs, Udo Kier ressemble beaucoup au comte Zaroff. C'est pas innocent.
Les chasses du comte Zaroff, c'est un chef-d'œuvre, mais il y a un sujet.
Il y a un sujet
à caution.
Non, et le background. Et moi, je trouve que tout ce qui relève justement de la série B ou de la série de ce qui peut faire un peu, comme tu dis, Ed Wood, sert le propos politique du film. C'est-à-dire qu'à un moment, il prend des acteurs, les paramilitaires, les soldats, qui sont des acteurs. On a l'impression qu'ils sortent d'une mauvaise série B américaine. On comprend qu'ils ont fait l'Irak, certains, ou d'autres qui sont juste, ce sont des bourgeois qui veulent s'amuser à tuer d'indigènes. Ils jouent même comme dans les mauvais films américains, et je pense que derrière ça, il y a aussi tout un discours, en tout cas, toute une symbolique sur l'impérialisme culturel américain et tout ça. Et je trouve le film, moi, en tant que western et en tant que brûlot politique, je le trouve très, très jouissif et absolument réjouissant. C'est peut-être pas le meilleur Mendoza Filho, mais je trouve que il assume son amour du cinéma de genre et de Carpenter, et ça fait plaisir aussi.
Bacurau de Kléber Mendoza. 3 jours et une vie, le film de Nicolas Boukrieff avec Sandrine Bonner, Pablo Poli, Charles Berling, Philippe Torreton, adapté du roman de Pierre Lemaitre, le même qui a eu le prix Goncourt pour Au revoir là-haut. Ça se passe en 1999 dans un village des Ardennes belges. Un enfant disparaît et chacun de suspecter son voisin et qu'on ne m'accuse pas dans le courrier de divulguer un secret puisqu'on sait d'emblée ce qui s'est passé. Antoine, un gamin de 12 ans dont la mère est jouée par Sandrine Bonner, envoie dans un mouvement de colère un bout de bois sur un petit de 6 ans, Rémi, le tue par accident et l'enterre. 15 ans plus tard, Antoine est devenu médecin et sous les traits de Pablo Poli, il revient au village où il est rattrapé, on s'en doute, par la culpabilité. C'est donc pas un polar, je me répète, sur un crime apparemment non élucidé. C'est un roman et un film sur la manière dont un petit criminel va tenter de survivre à son geste dramatique. Est-ce qu'il fallait 2 heures pour ce film qui oscille constamment pour moi entre Simenon et Chabrol, rien n'est moins sûr. Nicolas.
Moi, j'étais plutôt agréablement surpris. Alors, effectivement, c'est peut-être un petit peu trop long.
Surpris en bien
agréablement
ou en mal
surpris, agréablement surpris.
En bien.
C'est peut-être un petit peu trop long, mais c'est, moi, c'est le genre de cinéma que j'ai l'impression que le cinéma français ne fait plus, de films que le cinéma français ne fait plus.
Comme celui d'avant, il avait fait La Confession d'après Léon Mort,
oui,
un prêtre,
oui,
qui
oui.
était Alors, un cinéma qu'on ne fait plus non plus.
Exactement. Et en même temps, je crois que c'est un film, un pur film de commande. Je crois que c'est Le Maître qui est venu chercher
Boukrieff
pour le faire.
Absolument.
Boukrieff, qui est un cinéaste très inégal, qui essaye souvent des choses et c'est pas toujours réussi. Et là, il rentre dans le moule au service de l'histoire. Et je trouve que l'histoire, honnêtement, est assez passionnante. Et moi, je retrouve le plaisir. Oui, c'est un cinéma qu'on faisait à l'époque je pensais à Pierre Granier de Fer ou ces films-là, où ces descriptions des secrets de province, de vie de famille, meurtrie par un drame et qui va courir sur plusieurs années.
Et tout le cinéma que regrette Éric Neuf.
Voilà, tout
dans
à fait.
Son livre.
J'espère qu'il va en
sur le cinéma.
Avec plein d'acteurs qu'on voit moins ou en tout cas pas forcément dans des rôles très réjouissants. On retrouve il y a Sandrine Bonner, il y a Berling qui a un petit côté Victor Lanoux dans son personnage de rustre. Non mais c'est un peu les emplois qu'il avait à l'époque. Il y a Toretton qui est formidable dans le rôle du docteur. Et voilà, je trouve que c'est l'histoire est vraiment très très forte et ces histoires de secrets de province, de culpabilité, d'honnêtes gens je trouve le film vraiment assez beau et assez marquant. Après c'est pas un grand film mais
Eric, est-ce que c'est ce cinéma que tu regrettes et que tu aimes?
C'est un brave téléfilm du samedi soir. Hein. On regarde sans déplaisir, mais on se demande pourquoi on n'est pas dans son salon, sur le canapé. C'est peut-être pas utile d'aller dans une salle pour voir ça pendant 2 heures. Hein. Oh, c'est très démodé. Puis c'est le genre de film où il y a 15 ans après, 3 mois plus tard, sans arrêt, il y a un carton. Mais si, c'est un peu fatigant. Hein. Oui, parce que ça se passe
titre,
en 99,
jours,
en 2014 et en 2017. Et on sent pas bien la durée ni le temps passé. La culpabilité de ce gamin qui devient un médecin, ça, on le voit pas, là, on le sent pas souffrir. Il y a pas tellement de suspense, personne ne se doute de rien. Il y a Charles Berling. Alors il faut pas.
Il y a des secrets qu'on va comprendre à la fin.
Il y a Charles Berling. Lui, il faut.
Commence par raconter les choses.
Surtout plus que Berling joue un prolo. Il ne faut pas non plus qu'il joue un prolo en colère. Et il ne faut surtout pas qu'il fasse un prolo en colère et bourré. Parce que ça ne lui va pas du tout. Parce qu'on a envie de se marrer là. À un moment donné, on voit Pierre Lemaître en procureur. Donc je pense que le responsable, c'est lui. Mais le film se regarde sans...
Mais oui.
Oui, mais enfin, il n'y a pas de suspense.
Attendez,
parce que je sens que vous allez raconter ce qui ne
fait
pas.
La scène de tempête est formidable. Elle amène à une petite dimension presque symbolique.
Et Sandrine Bonner tient un peu tout ça en retrait, et on la voit pas vieillir d'ailleurs non plus, parce que c'est comme le temps. Non, le film attendait que ça passe un samedi soir chez vous.
Michel.
Oui, c'est la première fois que j'ai été intéressé par un film de Nicolas Boukrieff, parce que à part une séquence de tempête où son tropisme américain reprend le dessus, là on tombe dans le film catastrophe, j'ai aimé la première partie du film. La première partie du film, c'est donc cet accident mortel, involontaire. C'est un peu comme je ne sais pas si c'est tiré d'un vrai fait divers ou c'est une pure œuvre de fiction.
Je crois que c'était une vraie œuvre de fiction. Hein,
oui, mais
alors,
ça ressemble vraiment au roman non fictionnel.
Il a fait beaucoup de polars, le maître, avant de faire ses grands...
Ça ressemble au roman non fictionnel de Truman Capote, un peu, la première partie. C'est-à-dire l'analyse, une sorte de panoramique sur un petit village des Ardennes, avec la population, les gens, ces deux acteurs... Très bon, le jeune garçon plus âgé, et puis surtout le jeune qui a un regard perçant, formidable comédien.
Jérémy.
Et puis malheureusement, la deuxième partie, donc 15 ans plus tard, là on tombe dans les affres psychologiques, la culpabilité, on se noie un peu dans tout un méli-mélo, où là il aurait fallu Simenon, justement, la sobriété. Et la deuxième partie, vraiment, enlève tout le pouvoir qu'avait le film dans sa première partie.
Charlotte.
Moi, je ne suis pas d'accord avec vous quand vous dites qu'il n'y a pas de suspense, parce qu'effectivement, c'est un suspense décalé. Ce qui s'est passé est montré dès le début du film au spectateur.
C'est pour ça que je l'ai raconté.
Donc,
hein.
Vous l'avez raconté, Jérôme. On sait que c'est un accident et on sait qui est l'auteur de ce geste fatal. Néanmoins, on est quand même tenu pendant tout le film pour savoir si, est-ce qu'il va être découvert et si oui, quand. Donc, moi, je trouve qu'on est vraiment tenu par le récit de bout en bout. Là où je rejoins Michel, c'est que je trouve la première partie du film, c'est-à-dire avec avec ce héros qui a 12 ans sur l'enfance, beaucoup plus trouble, où il y a de l'angoisse, où ça tire même un peu du conte parfois avec des très belles scènes dans la forêt, ce qui s'efface dans la deuxième partie 15 ans plus tard. Mais en même temps, je trouve qu'il y a à la fois une peinture générale d'un village qui est gangréné comme ça par les secrets, les non-dits, et un assez beau portrait d'enfance brisée, comment on peut continuer à vivre quand on a commis l'irréparable jeune. Et là où je trouve le scénario assez malin, c'est que il y a aucune surdose de romanesque, c'est-à-dire qu'il va pas y avoir de twist incroyable de scénario, il y a pas de révélation fracassante, mais tout ça va avancer dans la banalité, la mesquinerie finalement des hommes et d'une petite vie, de continuer à faire avec, et je trouve ça assez fort.
3 jours et une vie, c'est donc Nicolas Boukrieff. On reste à la campagne dans ce cas, mais cette fois en Mayenne, avec Au nom de la terre, le premier film d'Edouard Bergeon avec Guillaume Canet, à la fois dégarni et moustachu, dans le rôle principal, celui d'un jeune agriculteur, Pierre Jargeau, tout frais de débarquer des États-Unis, qui hérite au début des années 80 de la ferme que son père, très bien joué par Rufus, dirigeait d'une main de fer. Au début, tout va bien. Guillaume Canet peut même s'amuser. Alors ça, pour un agriculteur dans ces années-là, c'est bizarre à parcourir cette terre à cheval, un très beau cheval gris. Mais j'ai peu vu d'agriculteurs traverser.
Il monte bien d'ailleurs.
Ah oui, ça, c'est son métier, enfin son autre métier, mais ça me paraît bizarre. Bref. Et puis arrivent les dettes, arrivent les problèmes, évidemment. Et là, il se met à l'élevage intensif de poulets. Il se ruine un peu plus et il finit par tomber dans la dépression. Au générique fin, quand apparaissent les photos de Christian Bergeon, le père du réalisateur, un agriculteur dont la fin fut tragique, on comprend évidemment beaucoup mieux ce qui a inspiré ce film sur un sujet évidemment très douloureux, toujours d'actualité. J'ai du mal à comprendre pourquoi, malgré tout, l'image est si emphatique. J'ai eu l'impression parfois de me trouver dans un numéro de Des Racines et des Ailes, version Mayenne, quoi.
Tu lui donnes à peine la Mayenne, au film.
Non, Eric. Mais j'étais frappé par le décalage entre ce sujet brûlant, encore une fois très douloureux, quand on sait le nombre, notamment, de suicides dans ce milieu-là et ce monde-là. Et cette image, beaucoup trop, selon moi en tout cas, propre et léchée. Charlotte.
Ça fait du bien que le cinéma français, quand même, s'empare d'un sujet, comme vous le disiez, très douloureux d'actualité. Non, mais on l'a fait en comédie. Il y a eu Normandie nue, il y a eu Roxane. D'une certaine manière, le film de genre avec Petit Paysan. Là, on est sur du drame familial, social. Et j'allais dire très terre à terre. Alors évidemment c'est louable, c'est très émouvant. Est-ce que ça fait un grand film pour autant? Je ne pense pas. Je trouve le film extrêmement didactique, pas très inspiré en termes de mise en scène. C'est même assez tartignol quand on entend Barbara qui chante « Dis, quand reviendras-tu » quand il est hospitalisé, voilà, avant qu'il revienne. Enfin bon, voilà, c'est très tarte. Je trouve qu'on est quand même un peu pris.
Très élogieuse, hein, cette semaine.
Mais oui, mais on est quand même un peu pris en otage par la véracité du récit, avec les images du père du réalisateur dans la fin tragique qu'on connaît. Bon voilà, ça reste un petit film modeste et maladroit, mais qui reste assez important et louable dans le fond, quoi. Et Guillaume Canet est plutôt bien et convaincant.
Chauve.
À cheval, il est très convaincant. Nicolas.
Bah, on n'a pas envie d'être méchant vu l'histoire
non, c'est ça, c'est difficile, quoi.
De l'histoire du réalisateur. Mais en même temps, on n'a pas envie d'être gentil non plus. On n'a pas envie d'être gentil non plus parce que c'est pas un cinéaste, malheureusement, et qu'il aplatit tout, qu'il rend tout un peu indigent et de plus en plus dérangeant, surtout à la fin. Moi, je ne savais pas, avant, j'aime bien voir les films assez vierges, et je ne savais pas du tout que c'était son histoire.
Voilà, je suis à l'air vierge, alors.
Il y a du boulot, hein.
Il y a du boulot, hein.
Et je ne savais pas que c'était effectivement l'histoire du réalisateur, et quand je découvre ça à la fin, c'est très très embarrassant. C'est-à-dire, effectivement, il y a une impression à la fois de...
T'as une série de photos qu'on te montre de manière mimétique avec celle de...
Des images au caméscope où ils chantent au mariage.
Et qui montrent à quel point Guillaume Canet ressemble vraiment trait pour trait, en plus. Ils ont même pas cherché à décaler le physique.
Avec son postiche,
oui. Oui, on sait qu'il a mis ses vraies bottes.
Est-ce qu'il faisait du cheval, le vrai père?
Non, c'est pas possible, ça fait invraisemblable.
Non, mais voilà, enfin, c'est un peu embarrassant parce qu'effectivement, les acteurs sont plutôt bons. Rufus est bien, Verle Batten, qui est une formidable actrice belge, elle est bien aussi. Mais moi, je suis désemparé face à l'écriture qui est quand même très, très terre à terre et au manque de... Je voulais qu'elle passe délicatement, mais
Michel. Voilà.
Non, c'est... Oui, non, j'ai pas grand-chose à ajouter. Simplement, ce qu'il faut dire, c'est bon, c'est vrai que le film a un peu un chantage, pas volontaire de la part du metteur en scène, mais après, on est embarrassé d'en parler.
On est embarrassé, oui. Au générique fin, on est embarrassé.
Très,
oui.
Très personnel. Moi, je retiendrai d'abord que c'est un nouveau film sur la paysannerie. Il y a, je crois, au moins 7 ou 8 films sur
depuis Jacques Le Croquant, il y en a eu beaucoup quand même. Hein.
Non, c'est les paysans étaient absents du cinéma français pendant très longtemps. Mais c'est un problème social capital aujourd'hui. Oui.
Mais c'est devenu. D'ailleurs, c'est produit par Nowaz Productions qui produit beaucoup ces films-là.
Mais il ne les reflète pas au meilleur dans ce film. Et aussi, je voudrais dire que Guillaume Canet vieillit très bien. Je trouve que c'est un comédien. On aurait pu le penser un peu superficiel, un peu beau garçon, et c'est tout. Et je trouve qu'il prend de la bouteille avec tous les films qu'il tourne.
Il a été souvent meilleur.
Bien, mais en même temps, c'est un film tout de même.
Alors, cette semaine, dans le Figaro, papier très élogieux d'Éric Nolf.
Ah oui, moi j'ai beaucoup aimé ça, je suis désolé. C'est grand paysan, le film. C'est pour une fois.
Éric, tu parlais de téléfilm sur 3 jours et une vie.
Ça mieux fait. La première séquence où on voit Canet chauve avec la photo de sa mère sous le bras.
On regrette qu'il n'y ait pas eu d'Okir avec un
en train d'arpenter un champ qui vient d'être labouré, perdu dans cette campagne.
On sent qu'il connaît rien à la campagne.
Éric, arrête de dire du.
J'ai grandi.
Un champ qui vient d'être labouré.
Bien du cinéma français.
Mais oui.
Mais quand tu vois Petit Paysan il y a 2 ans qui arrivait justement à faire d'un sujet.
C'était mieux,
mais
là, c'est Antoine Arlo inoubliable.
Bien sûr, avec un sujet
c'était
vraiment.
Beaucoup mieux. Mais là, il y a un sujet. On voit enfin des gens travailler dans les films français parce que d'habitude, dans le cinéma français, leur boulot, c'est d'allumer une clope dans un café dans le meilleur des cas. Là, on voit ce que c'est que d'élever des poulets après avoir élevé.
Non, pas vraiment.
Parce qu'il n'y a pas que des chevaux.
Éric Neuf, passionné par l'élevage intensif de poulets.
On apprend des choses.
On voyait plus dans Petit Paysan avec ses vaches que là avec ses poules.
Rufus est épatant.
Sauf pas que l'image est totalement...
C'est simple, académique, sobre. Le type a filmé comme ça, a cru l'histoire de son père. Je suis d'accord sur le petit côté chantage, mais je le savais pas non plus. Et moi, ça m'a pas gêné. Moi, ce qui m'a gêné, c'est au début la calvitie en plastique de Guillaume Canet, mais on s'habitue parce que...
Pas du tout en plastique, il s'est réellement rasé la tête.
C'est mal fait, alors. Non, puis en plus, c'est un film sur la honte. C'est un type qui a des dettes, qui n'ose plus regarder sa famille en face, qui devient violent, dépressif. Moi, ça m'a pas mal touché. Canet est très, très bon. Moi, j'aime bien quand il y a la chanson de Barbara, parce que quand reviendras-tu, je
sais. Oh là là, mon Dieu.
Non, parce qu'à vous entendre, il y a un suicide de paysan tous les 2 jours, mais il devrait y avoir de temps en temps un suicide de critique de cinéma.
Et c'est malheureusement tous les jours qu'un agriculteur se suicide.
Au nom de la Terre, c'est donc le film d'Edouard Bergeon. Est-ce qu'il y a des réactions sur ce film? Non. Autre drame social, selon moi, autre réalisation, beaucoup plus pour le coup frontale, glaçante, c'est Ceux qui travaillent, le premier long métrage, là encore, un premier d'Antoine Rusbach, un Suisse ayant fait ses études de cinéma en Belgique, avec un tout à fait impressionnant Olivier Gourmet dans le rôle de Franck, père de famille, habitant une résidence pour riches, il est cadre dans une compagnie de fret maritime. Et au tout début du film, il est appelé en urgence par le commandant d'un de ses bateaux où des migrants sont montés clandestinement. Franck prend alors une décision qui va lui coûter son poste. Je ne vous dis pas cette décision, ni pourquoi il va être viré et forcé. Franck à se remettre en question après tant d'années pendant lesquelles il a été grassement payé pour servir une boîte dont le seul principe était évidemment le profit. Difficile de parler d'une descente aux enfers de Franck, tellement dans sa vie d'avant, cet anti-héros a été lui-même infernal. Alors, je précise d'emblée que ce film devrait, on ne sait jamais ce qui se passera, inaugurer une trilogie contemporaine articulée autour du modèle médiéval. Après le tiers-état de ceux qui travaillent, le clergé de ceux qui prient et la noblesse de ceux qui combattent. Donc on en est à ceux qui travaillent. Michel.
C'est de loin le meilleur film de cette émission.
Bien, d'accord avec toi.
C'est un film très fort, qui est justement pas manichéen, qui est un film complexe sur cet employé modèle qui prend une décision immorale, mais qui finalement, il le fait parce que c'est favorable à son entreprise et qui se retrouve au chômage. Alors, c'est des sujets qui auraient pu tenter Stéphane Brisé ou Laurent Cantet. C'est des gens qui aiment des situations contradictoires. Et puis aussi, si on peut dire que ça a été dit que tout film est un documentaire sur son acteur, c'est un documentaire sur cet acteur extraordinaire qui est Olivier Gourmet. Je crois que
qui a un parcours d'ailleurs au cinéma exemplaire.
Oui, mais c'est un acteur prodigieux
jusqu'à aujourd'hui.
Il est pratiquement de tous les plans. Et je trouve que ce qu'il fait est absolument confondant de complexité pour refléter justement la complexité du personnage qui finalement sacrifie sa vie familiale, qui s'occupe pas beaucoup de ses enfants. Il y a une très belle séquence vers la fin où il emmène sa petite fille au Havre pour lui montrer ce que c'est que le travail de son père.
Je crois que c'est à Dunkerque, je crois.
Peut-être Dunkerque, moi je dis le Havre. Bon,
c'est pas la même chose.
C'est pareil.
C'est plus loin de Genève, je sais pas lequel est plus loin de Genève exactement. En tout cas, c'est un film frémissant de sensibilité, d'intelligence. Et sans musique, c'est un film vraiment qui ne sollicite jamais l'approbation du spectateur. C'est un film où la mise en scène est d'ailleurs toujours dans les tons gris. Il y a une sorte de neutralité d'approche qui est absolument épatante et qu'on retrouve dans pas mal de films suisses. Moi, je pensais à des films comme Charles Maurouy.
Mais il n'est pas suisse, hein.
D'Alain Tanner.
Le film n'est pas suisse, c'est un.
Le réalisateur.
Oui.
Le réalisateur est suisse. Belge. Oui, mais c'est dans les Ardennes.
L'acteur est belge.
C'est un film suisse et belge, mais ça fait penser au meilleur cinéma suisse par cette sorte de froideur détachée, mais en même temps très émouvante.
Alors ça, Eric, t'as découvert le fret maritime, là?
Exactement. Non, mais ce qui est bien, c'est que c'est un film antipathique. Le héros est pas bien. Tu dis, Michel, qu'il veut sauver sa vie de famille. Non, parce que sa famille, elle en a rien à foutre de lui et vice-versa. Il perd son job, le type, et son fils lui dit, on va pas baisser de niveau de vie. Non, c'est un type c'est un peu presque l'étranger de Camus, ce gars-là.
La seule différence, qu'il est à la fois bourreau et victime, quoi. C'est ça
qui est intéressant. Oui, mais il s'en rend pas compte. Et c'est un trajet de vie. Il veut sauver son job, vaguement, mais surtout, il veut savoir s'il a une âme, au bout du compte. Et c'est ça qui est bien. Et Gourmet porte tout ça. Moi, ça m'a réconcilié avec Gourmet, qu'on voyait un peu trop dans les mêmes rôles. Là, il porte tout sur ses épaules. Et le film est âpre, rugueux, comme filmé dans un aquarium. On voit ces êtres là qui bougent. Il y a une scène dans un hôtel très, très bizarre avec des marins qui se saoulent la gueule et lui qui est là. Et on voit aussi la descente d'un type quand il perd son travail. C'est comment un type en costume cravate se retrouve en tenue de jogging. Et ça, c'est un destin, et Gourmet fait
et
ça.
Et il filme très bien aussi cette maison derrière des haies. Il y a une sorte de labyrinthe de haies dans cette résidence
de luxe. Il y a la piscine,
il
y a la télévision, il y a des scènes de repas. C'est du Chabrol passé à la toile émerie.
Faut pas exagérer non plus.
Nicolas?
Non, mais je suis d'accord sur la complexité et la portée politique du film qui est vraiment forte, parce que ce personnage, en fait, qui voit vraiment le socle de sa vie s'effondrer, c'est-à-dire qu'il avait tout basé sur la valeur du travail. C'est un fils de fermier, il s'est fait tout seul. C'était même un mauvais père, on sentait qu'il s'était pas occupé de ses enfants, et qui découvre en fait qu'il y a autre chose dans la vie, et qui comprend aussi qu'il a peu de valeur dans ce monde capitaliste où une vie humaine n'a pas grande importance. Tout ce que vous avez dit sur le film, je suis assez d'accord. Après, moi, je regrette juste effectivement que la mise en scène et que le regard du cinéaste soit à ce point. Il y a quelque chose effectivement de très grisâtre, de très antipathique, et que le spectateur est presque autant accablé que le personnage. Et il y a comme ça un assujettissement à la platitude du réel, moi, qui finit par m'épuiser un peu. Quoi.
Parce qu'il essaye d'être nuancé, c'est pas un film.
Il est nuancé, mais il aurait pu. Il y a certaines scènes un peu trop longues. Il y a des moments où il aurait pu un peu resserrer, être un peu plus nerveux et mordant.
Oui, mais Nicolas, c'est un premier film.
Je regrette juste ça en termes formels, en termes de cinéma, qui m'emporte pas plus dans cette indignation que
mais des premiers films de cette force et de cette complexité, on en a quand même pas toutes les semaines. Donc savourons un peu. Et Michel le disait, Ceux qui travaillent est peut-être l'un des meilleurs films dont on va parler là cette semaine. Moi, ce que je trouve d'abord très intéressant, c'est que
on n'a pas encore parlé du nanon, hein.
Ni de Rambo, donc gardons nos cartouches, c'est vrai. Là où je trouve très intéressant, c'est que d'habitude, les films sociaux, on est plutôt du côté du prolétariat, et là, on voit les cols blancs. C'est un point de vue qu'on a rarement dans le cinéma social, avec un film qui, en plus, refuse totalement de diviser le monde entre les bourreaux et les victimes. Et c'est vrai que ce Franck est les deux à la fois, vous le disiez, Jérôme, parce qu'il est responsable, donc coupable de ses actes, et en même temps, victime du système, du monde du travail dans lequel il évolue. Et c'est toute cette complexité, je trouve, qui fait le nœud du film, qui par ailleurs est porté par un Olivier Gourmet, mais bon, il est magistral à chaque film, mais alors là, dans un rôle en plus assez taiseux, c'est-à-dire que quand même, il parle très très peu, tout passe dans les silences, les regards, l'attitude de son corps, et on arrive à avoir de l'empathie pour un homme que je condamne moralement. Donc effectivement, cette complexité-là se retrouve aussi dans le regard que nous, on porte sur ce personnage.
Mais qui finit aussi par avoir une certaine morale, quand on lui propose d'aller dans une autre boîte, il refuse d'y aller pour des raisons morales.
Voilà. Oui, mais on voit tout le cynisme, la cupidité
davantage.
Et la complexité du système actuel.
Franchement, allez voir Ceux qui travaillent. D'Antoine Rusbach, pas de réaction sur ce film. Si, une réaction. Bonsoir, monsieur.
Oui, bonsoir. Vous avez tout dit, c'est un film assez remarquable. Il faut admirer la prestation d'Olivier Gourmet, qui est effectivement, il n'a pas négligé sa famille. Il se rend compte qu'il est coupé de sa famille, et particulièrement des aînés de ses enfants. Mais il y a quand même cette relation avec sa petite dernière, qui est pleine de poésie, et qui, à la fin, va le ramener à la surface. Je crois d'ailleurs, vous dites le port, je crois que c'est Anvers en fait, on voit le Manneken Pis.
Ah bon, c'est donc ni le Havre, ni Dunkerque, c'est Anvers.
Ils sont bons en géographie.
Il n'est pas inintéressant de noter que le bateau s'appelle le Cervantes.
Oui.
Et c'est très important parce qu'on se souvient que Cervantes a été prisonnier des pirates avant d'écrire son chef-d'œuvre. Et ça, c'est important, ça veut dire beaucoup de choses.
Pas le Houellebecq, hein.
Ça veut dire beaucoup de choses dans le film. Et puis il y a toute la problématique du fret maritime.
Merci, c'est un chef-d'œuvre. On va revenir à nos films. On en a encore trois à évoquer assez rapidement. Downton Abbey, donc l'adaptation et la réduction par Michael Englert dans un film de 2 heures et des poussières de la série culte et royale, ou plutôt son prolongement, puisque le film se déroule en 1927, juste après la 6e et dernière saison que tu n'avais pas manqué, j'imagine, Michel. Downton Abbey, donc, attend l'arrivée en grande pompe du copain d'Éric, le roi George V, et de la reine Marie. Quand je dis Downton Abbey, on se comprend, ce sont autant les membres de l'aristocratique famille Crowley que les nombreux domestiques. D'ailleurs, pratiquement toutes les actrices et tous les acteurs de la série se retrouvent dans le film, c'est-à-dire dans ses décors somptueux et ses costumes. Éric, tu as aimé ça ?
Oui, c'est un brave film du samedi soir, ça.
À la télé ou au cinéma ?
Non, au cinéma, il faut aller voir.
Tu avais vu la série, toi ?
Oui. Ah ben, d'ailleurs, si on n'a pas vu la série, on doit être un peu perdu hein, devant tout ça, parce qu'il y a tellement
non, sans
bon,
doute.
Bon, tant mieux.
J'ai pas vu la série.
Non, mais faut voir ça sur grand écran parce que ça a coûté tellement cher que visiblement ils auraient pu s'offrir le château et son domaine s'ils avaient voulu. Hein. On retrouve tout, c'est d'un luxe inouï. C'est cette idée d'une famille aristocratique qui est obligée de recevoir le roi et la reine. Ça les flatte, et ça les embête, mais surtout le vrai drame, c'est chez les domestiques.
C'est chez les domestiques, oui.
Ils voient arriver tous les serviteurs de Buckingham qui prennent le pouvoir.
Et la place.
Il y a des histoires d'homosexuels qui n'étaient pas vraiment dans la série. Il y a un vrai scandale. Pas vu en entier. Il y a un vrai scandale, c'est qu'il y a une couturière kleptomane. Alors ça, shocking. Et le film est un peu trop long. Et moi, j'ai peur que ça inspire le réalisateur des Tuches qui va vouloir tourner un film où Emmanuel Macron va chez les Tuches passer un week-end.
Non, parle pas de menaces, Charlotte.
Est-ce qu'une addition de sous-intrigues fait un scénario ? Non. Voilà, il ne se passe absolument rien. C'est un film interminable, d'un ennui abyssal. J'ai l'impression de voir une exposition de personnages pendant 2 heures, filmée absolument n'importe comment. C'est-à-dire que dès qu'on entre dans une pièce, on a une plongée de la caméra tournoyante pour bien nous montrer tout le décor, avec les tableaux qui s'élargissent pour arriver au personnage. On a même, mais tenez-vous bien, des ralentis sur des gros plans, des plats qui sont servis au dîner. Enfin, ça n'a aucun sens. Enfin bon, moi je me suis ennuyée terriblement, et à part Maggie Smith qui est évidemment impériale et qui a toutes les punchlines du film, retournez voir la série, mais ça c'est pas la peine.
Michel ?
Ça m'a fait penser à un mot de Degas, auquel le musée d'Orsay d'ailleurs consacre une superbe exposition. Degas visitait un salon de peintres académiques, et un de ses amis qui était à côté de lui montrait un tableau. Il disait « Regardez ce tableau comme il est bien fini ». Et Degas disait « Il est peut-être fini, mais il n'est pas commencé ». Je trouve que ce film, c'est un peu ça. On dirait qu'il a été fait 30 ans avant Le Messager de Lozay ou Gosford Park. D'ailleurs, c'est le même scénariste.
C'est le même scénariste.
Le Gosford Park d'Altman. C'est un film complètement engoncé et d'ailleurs non seulement conservateur dans la forme, mais conservateur dans l'esprit. Parce que pour lui, le grand conflit, c'est entre les domestiques de la reine et puis les domestiques du château.
Ah oui, c'est
du Marcel Aimé.
C'est gloire au système des classes.
C'est entre les riches et les domestiques. C'est vraiment
c'est
la lutte des classes.
C'est la vraie vie, ça.
Évidemment, les femmes de la série.
Michel n'a pas de problème avec son personnel.
C'est vraiment un film pour les aficionados, ceux qui ne veulent pas rater un épisode. Ils vont être contents de retrouver leur personnage. Mais franchement, il n'y a pas beaucoup de cinéma.
Mais c'est le problème.
Nicolas est en train de trépigner.
Non, mais parce que c'est le problème aujourd'hui, c'est terrible, parce que ça dit bien l'inversion des valeurs entre la série et le cinéma. C'est-à-dire que la série est formidable, vraiment. La série est une série formidable.
Écoutez l'émission de notre ami Xavier
oui,
tous les samedis soirs, une heure
et là, le film
sur notre chaîne.
Moi, le film que je trouve assez plaisant. Effectivement, c'est pas un grand film, mais quand on connaît la série, qu'on connaît les personnages, c'est quand même finement écrit. Tous les acteurs sont formidables. Et, enfin, les acteurs. Il y a quand même qu'en Angleterre que même le plus petit second rôle est formidable. Bon, c'est quand même assez savoureux. Après, effectivement, c'est on est dans des charentaises. Mais ce qui est terrible, c'est que le film presque édulcore ce que la série pouvait avoir.
Mais oui, il y a rien de complexe. Il y a une dimension historique,
une dimension assez sombre dans la série qui finit par filtrer. La série est beaucoup plus intéressante et ça en dit long quand même sur voilà sur ce qui est devenu la série, ce qui est devenu comment on considère le cinéma par rapport aux séries. Avant, c'était l'inverse. On aurait fait un film plus prestigieux et mieux écrit. Aujourd'hui, c'est malheureusement ça.
Downton Abbey et puis l'inusable Georges Feydeau n'est pas seulement au théâtre de la Porte Saint-Martin et à la Comédie Française. On en parlera dimanche prochain dans Le Masque. Il est aussi au cinéma. Malheureusement, c'est le Dindon Vaudeville sur l'infidélité, co-scénarisé par Jalil Lesper et Guillaume Gallienne, qui transpose sans raison de la fin du 19e siècle l'intrigue aux années 60. Gallienne y incarne Pontagnac qui suit dans Paris jusque chez elle une belle inconnue, c'est Alice Paul, dont il va comprendre qu'elle est la femme de son ami Vatelin, joué par Danny Boone, lequel a une maîtresse dont le mari est lui-même infidèle, etc., etc. On se demande à la fin si le dindon de la farce n'est pas d'abord le spectateur. Je me tourne d'abord vers Charlotte.
Bah, écoutez, sur l'affiche.
À la fois critique de théâtre et de cinéma.
Ouais, non, mais c'est triste, là, vraiment. Sur l'affiche, il y a écrit tout le monde peut se tromper. Et ben voilà, le réalisateur aussi. Jalil Lesper, je ne comprends pas le début de sa motivation, de son désir d'adapter ce texte. On ne retrouve ni la fameuse mécanique horlogère de Feydeau, ni même l'ironie du texte, puisque là, tout est noyé dans une avalanche de mimiques. Ils jouent tous. Sont des acteurs de cinéma qui jouent comme des mauvais acteurs de théâtre.
Surjoue.
Donc c'est insupportable. Et Guillaume Gallienne, qui était assez bon dans le même rôle, il a joué Pontagnac pendant très longtemps à la Comédie Française dans une mise en scène de Lucas Hembleb, était formidable, truculent et tout ça. Et là, ça ne va pas du tout. Il n'y a aucune vivacité de jeu, il n'y a pas de finesse. Il ne faut pas, quoi.
Michel.
Non, j'ai rien à ajouter. C'est effectivement, on est les dindons de cette fausse farce. Acteurs gesticulants, aucun rythme, vraiment.
Non.
On ne comprend pas parce que Jalil Lesper est un acteur intéressant. C'est un metteur en scène pas très grand, mais qui n'a pas fait des mauvais films. On ne comprend pas, sauf que c'est une commande, probablement. Ouais. On lui a proposé, de diriger deux grands comédiens, soi-disant. Et...
Eric ne l'a pas vu, Nicolas.
Je vais rejoindre. Jalil Lesper, mais ne le peut pas, malheureusement. L'idée de transposer la pierre dans les 60, on a l'impression qu'il a voulu moderniser un peu la chose et ça rend le texte encore plus vieillot. C'est-à-dire qu'il y a quelque chose de terrible avec en plus cette espèce de défilé d'imagerie pop complètement factice. Puis surtout, la comédie, c'est quand même un sens du rythme, un sens du cadrage, un sens du montage. Et là, accumuler 18 axes différents pour filmer juste un dialogue entre deux personnages, on a l'impression que chaque réplique a le droit à son oui. plan, ça n'a aucun sens. Enfin bon, c'est triste.
Le dindon, donc, de Jalil Lesper. Et enfin, dans la série film gore mais à l'EHPAD, on termine avec le dernier tour de piste de Sylvester Stallone. 73 ans, tous ses muscles, enfin en apparence, hein.
Plus ceux du visage. On n'a plus beaucoup sur le visage.
Non, mais le muscle, en général, on les voit plutôt ailleurs. C'est dans Rambo Last Blood d'Adrian Grimberg. Je ne connais pas, je ne sais pas qui c'est. C'est donc le cinquième. Je pense que c'est l'ultime épisode de la série. Où notre vieux soldat retourne dans son ranch, reprend du service pour aller sauver au Mexique la fille d'un ami kidnappé, drogué. Et prostituée, on fait pas deux demi-mesures, par un cartel de la drogue. Voilà. Eric, tu l'as vu ?
Non, j'attends Rambo contre Rocky.
Mais il n'y en aura pas d'autres, hein. Il n'y en aura pas d'autres. Ah. Nicolas.
On peut dire que au moins la saga elle mérite une forme de constance parce que chaque épisode est plus mauvais que le précédent. Donc là on arrive au cinquième, on arrive vraiment au fond. Le premier était bien, mais ce qui est terrible chez Rambo, c'est qu'en fait on réalise qu'il a tué des Viet Cong, il a tué des Afghans, il a tué des Russes, il a jamais été aussi bon quand il tuait des flics américains dans le premier film. Donc c'est assez. Non, mais le premier effectivement était une bonne série B.
Pourquoi est-ce qu'il rend
pile, cela dit.
C'est pour mais c'est frais, vraiment incompréhensible parce qu'il avait, en plus, il a réussi avec Rocky et les suites Creed, quelque chose d'assez digne et de vraiment assez beau et d'assez touchant. Et là, Rambo, c'est vraiment la phase B de Stallone et tout ce qu'il y a de pire, quoi. C'est-à-dire que c'est même pas un film digne de même en vidéo ou sur Netflix, on aurait même pas envie de voir ça. C'est une bouillie filmique informe, c'est très problématique.
C'est aussi une bouillie physique, hein.
C'est une bouillie physique, non mais c'est triste. Et surtout, c'est en plus très problématique. Il y a même plus le côté nanar assez amusant où on le voit dégommer de manière un peu BD des hordes, des armées entières de Viet Cong. Là, c'est vraiment un film qui est vraiment problématique, même sur ce que ça raconte de la frontière avec le Mexique, la gratuité de cette vengeance. On a l'impression qu'on est là que pour le plaisir de le voir à la fin étripé. Alors il y a de tout. Hein. Il arrache même un cœur avec les mains. Ça c'est formidable.
En gros plan. C'est Barnard.
C'est terrible. Et c'est les 10 dernières minutes. Et avant ça, on attend. Il y a comme une espèce de climax absolument pathétique qui va arriver à la fin. Non, c'est vraiment très triste parce que Stallone aurait pu profiter de cette légende qui s'est créée de manière presque un peu disproportionnée autour du personnage et il n'en fait rien alors qu'il y avait quand même quelque chose à en faire de ce personnage qui est vraiment un personnage passionnant.
D'où ma question, j'arrive pas à comprendre pourquoi il rempile. Michel.
C'est un navet.
C'est
pas drôle. Alors, nanar ou navet, en tout cas, je trouve que néanmoins, il y a des articles partout. Il y a des grands reportages, des entretiens. Il est honoré au Festival de Cannes. C'est un film raciste sur les Mexicains, l'horreur absolue. C'est un film fasciste parce que ce qu'il nous montre, c'est que il faut pas tenir compte sur la police, faut pas tenir compte à la justice. Tout est pourri. Il y a que la vengeance personnelle qui compte. C'est un film atrocement filmé, avec essentiellement des gros plans, avec de temps en temps un paysage, mais essentiellement tout est en gros plan. Le type sait rien faire de l'espace. Moi, je trouve ça hallucinant qu'un grand quotidien de référence mette ça au-dessus d'une affaire de famille,
Tu fais allusion à quoi? Il y a eu un papier sur le film?
Non, au-dessus de Fête de famille. C'est-à-dire que le film a été mieux considéré
par le film de Cédric Kahn.
Ce quotidien de référence, ici, à Paris, quand il est sorti il y a 3 jours.
Et tu parles du Monde, là.
Je parle du Monde. Je trouve que mettre ça, quand on a assassiné le très beau film de Cédric Kahn, pour trouver des qualités, malgré tout, on lui met tout de même une étoile à ce film ignoble, mais qui est vraiment le degré le plus zéro du cinéma américain, je trouve ça... Alors on nous dit c'est la mauvaise conscience de l'Amérique, il n'y a aucune mauvaise conscience d'Amérique. D'ailleurs, le premier Rambo, c'est quand Reagan était devenu président de la République, le président des États-Unis. Et le premier Rambo, c'était justement pour critiquer les gens qui critiquaient le Vietnam. Et il fallait réhabiliter les combattants au Vietnam. Il n'y avait pas de mauvaise conscience.
Plus compliqué.
C'était un meilleur film, je l'accorde.
Un meilleur film, mais c'était pas aussi simple.
Meilleur film. Mais toute la série, comme tu le dis, c'est de pire en pire, Nicolas.
Oui, bien sûr.
Charlotte.
Je l'ai vu en salle mercredi et un ami bien intentionné que j'avais croisé peu avant m'avait dit tu verras, c'est au-delà de la bouse. Et moi, je me suis demandé, mais est-ce possible? Comment un film peut être au-delà de la bouse? Alors, effectivement, j'ai vu. Vous avez à peu près tout dit sur le film. Ce qui est assez fascinant, c'est que, alors, Rambo, évidemment, maintenant, Sylvester Stallone ne peut plus affronter seul 80 Mexicains armés jusqu'aux dents. Donc, il est malin. Il en a dans la tête. Donc, il se transforme en papy bricolo, quoi. Ça devient MacGyver, qui va construire lui-même tous les pièges dans lesquels il va faire une bouillie, un carnage. Enfin, c'est une charcuterie totale dans des sous-sols qu'il a construit sous sa maison. Alors moi, je m'étais dit, foutu pour foutu, allez, je fais le grand jeu, je vais voir le film en VF et en 4DX. Alors en VF, ça donne des Mexicains qui disent « y avait tétoué », parce que ils parlent français, mais avec l'accent mexicain. Donc on est mort de rire pendant une heure. Et alors, en 4DX, tenez-vous bien, moi, j'avais jamais fait ça. Hein. C'est, pour ceux qui ne connaissent pas, c'est donc des fauteuils qui bougent et on vous envoie de l'eau, de la fumée, du vent. Et quand ils se bastonnent, on reçoit des coups dans le dos. Mais j'ai cru crever.
C'est dingue de faire ça.
Mais oui. Alors, j'étais recroquevillée sur mon siège. Je vous jure, dès qu'il y a des coups de poing, des coups de poignard, vous les sentez vous-même dans le dos du fauteuil. Comme les fauteuils de massage, là, mais en hyper violent. Avec de l'eau dans la gueule, du vent. Non mais j'ai cru mourir.
T'es complètement folle, Charles.
Plus jamais je ne verrai ça de ma vie.
Ben en tout cas, on peut le conseiller. Donc allez voir Rambo Last Blood dans ces conditions-là.
Au pâté Vépler, place Clichy pour les Parisiens.
Allez.
Tout le monde va y aller, du coup.
Un conseil pour finir cette émission, on commence par toi, Charlotte.
Ah oui, alors là, c'est complètement un ovni incroyable qui sort là, un film qui s'appelle « Ne croyez surtout pas que je hurle » de Franck Beauvais, qui est un garçon qui, suite à un chagrin d'amour, s'est retrouvé tout seul en Alsace. Il tombe dans un profond désarroi personnel et en même temps, la France est dans un état d'urgence. Et il est paralysé chez lui. Qu'est-ce qu'il fait ? Il va voir des films 4-5 par jour pendant 6 mois. Et de ce matériau filmique où il a trouvé mais des incunables russes, enfin des films improbables, il a fait un montage d'1h15 qui sont des plans extrêmement rapides sur lesquels il dit en voix off son état d'esprit personnel et de ce qu'il ressent de la France d'aujourd'hui. C'est comme un journal intime en images. C'est vertigineux, extrêmement poétique, onirique. C'est un ovni complètement dingue.
Tu redonnes le titre, Charlotte.
Ne croyez surtout pas que je hurle de Franck Beauvais.
Le conseil de Michel.
Alors, c'est une sortie en DVD qui précède une sortie en salle d'un grand classique qu'on n'a pas vu depuis longtemps, Quand passent les cigognes, qui a été la seule palme d'or que les Russes aient jamais obtenue en 57, qui a eu 5 millions de spectateurs en France. C'est un mélodrame. Et alors, c'est de Mikhaïl Kalatozov, qui était un cinéaste du muet. Et on a l'impression qu'il a vécu sous une chape de plomb stalinienne. Il a fait des tas de films de commande. Et en 57, grâce au dégel, il se livre complètement grâce à un sublime chef opérateur, Sergueï Ourousevski, qui est un prodigieux chef opérateur. Vous avez des scènes, mais stupéfiantes, en noir et blanc, des scènes de foule qui sont d'un brio, et c'est le retour au formalisme du grand cinéma russe révolutionnaire. C'est en même temps un mélodrame magnifique sur une femme dont le mari est tué dans la guerre et qui a trouvé un autre homme dans sa vie, et la sublime actrice Tatiana Samoïlova.
Mon conseil, c'est un livre, L'île des enfants perdus chez Actes Sud. Un livre où tout est vrai, mais qui est romancé, de Nicolas Chaudin, qui essaie de retrouver les traces de La fleur de l'âge, le film inachevé de Marcel Carné, qui avait été tourné à Belle-Île en 1947 et dont les bobines ont totalement disparu. Tout ça est vrai, hein. Comme ont disparu, bien sûr, les acteurs, c'est-à-dire Arletty, Reggiani, Martine Carole, Jean-Roger Cossimon ou Paul Meurice. Et donc, Chaudin essaye d'obtenir un rendez-vous avec l'unique rescapé de ce film naufragé, c'est-à-dire Anouk Aimée, qui avait 15 ans quand elle a joué une petite ilienne dans ce film qui racontait la mutinerie en 34 du bagne d'enfants, parce qu'il y avait un bagne d'enfants à l'époque situé sur l'île. C'est à la fois passionnant et en même temps très émouvant. L'île des enfants perdus, qui était le premier titre du film, en fait, chez Actes Sud, de Nicolas Chaudin. Le conseil d'Éric.
Pour une fois, je vais être très snob et recommander le dernier numéro du New Yorker, le magazine américain, parce qu'il y a à l'intérieur un très long et épatant portrait de James Gray.
Oui.
Et on apprend un tas de choses. C'est fouillé, marrant comme tout. James Gray raconte que son médecin lui dit « Alors, vous avez vu Avengers ?» Et il lui répond « J'ai pas 9 ans. » Et son père lui dit « Mais il marche, ces films. » Et il dit à son père « Pourquoi ? T'es actionnaire chez Time Warner. » Et tous les dimanches, il fait un dîner avec ses amis et ses collaborateurs et il classe les plats en qualité selon les titres des films de Coppola. Et c'est vraiment... S'il y avait 10 pages comme ça sur les metteurs en scène dans les journaux français, ce serait mieux.
Mais tu les as souvent dans Positif, qui fait ça une, oui. D'ailleurs, sur le Woody Allen et sur Un jour de pluie à New York. Nicolas, pour finir.
Je rejoins Eric sur le... moi, c'était pour conseiller un festival qui fait ses 10 ans cette année et qui a lieu à Lyon depuis 10 ans, qui est le festival de Lumière, qui commence du 12 octobre et qui se poursuit jusqu'au 20, et qui est un festival formidable parce qu'on y
voit... L'autre festival de Thierry Frémaux.
L'autre,
Et il y aura Coppola
avec Cannes.
Et il y aura Coppola qui sera là, effectivement, puisque l'hommage, comme il dit, le prix Nobel du cinéma cette année, le prix Lumière, c'est à Coppola, qui va venir avec certains films qu'il a remontés. Il y en a un ou deux qu'il a des nouvelles versions.
La 42e version d'Apocalypse.
Voilà, ça. Non, il y en a un autre encore. Il retouche sans cesse ses films comme les peintres, comme certains peintres, leurs toiles. Il y a plein de choses. Il y a une rétrospective Bong Joon-ho.
Le nouveau Scorsese de Netflix qui sera montré en grand écran.
Il y a une rétrospective aussi des films de l'avant Code Hays de Hollywood. Ça, c'est assez passionnant parce qu'on voit à quel point la liberté du cinéma américain avant Code Hays. Et puis, il y a plein de choses.
On ne peut pas faire tout le programme parce que l'émission se termine et je ne veux pas que tu te précipites non plus. Voilà. On peut dire qu'il n'y aura pas, en tout cas, de rétrospective Stallone. Donc, c'est aussi
une des
vertus de ce festival.
Ça viendra.
De Lyon. Tous ces conseils, vous les trouvez sur le site du Masque et la Plume, franceinter.fr. Merci beaucoup, Charlotte. Charlotte Lipinska, Michel Simon, Eric Nehoff et Nicolas Chalère pour cette émission qui était comme chaque semaine présentée par Jérôme Garcin avec la collaboration de Lysiane Selam et ce soir au Théâtre de l'Alliance Française à la Technique. Et je les remercie, il y avait Bernard Laniel, Nadège Antonini et Célia Dufour pour une réalisation signée Xavier Pestugia. Le prochain enregistrement du masque, eh bien, c'est le jeudi 10 octobre, c'est au Théâtre de l'Alliance Française, 101 boulevard Raspail, dans le 6e à Paris, pour deux émissions, l'une consacrée à la littérature et l'autre au cinéma. On parle de théâtre dans une semaine, à dimanche prochain, sur France Inter, évidemment.